La une dans le monde ce matin, Lise, on va s'intéresser à l'exportation du conflit entre Israël et le Hamas dans le monde entier avec votre invitée. Je vous laisse le soin de nous la présenter.
Je suis ravie ce matin de recevoir Léa Landman, spécialiste de géopolitique et de diplomatie. Bonjour Léa.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors évidemment, à la une ce matin dans le monde, il y avait cette tentative de lynchage au Daghestan dont on vient de parler dans nos journaux. Particulièrement choquant parce qu'on s'attaque à des civils, Léa.
Oui, particulièrement choquant et surtout, on se demande comment c'est exporté au Daghestan, quand même une province, une ancienne république soviétique et une province principalement musulmane. Donc en fait, le conflit a complètement été exporté. Les chefs de la communauté juive là-bas, il y a à peu près 700-800 juifs qui disent qu'ils sont attaqués, ils sont en danger, et que le fait que la Russie se soit mise du côté du Hamas unilatéralement augmente en fait le danger dans lequel se trouvent les juifs du Daghestan.
Alors, si c'était que le Daghestan, Léa, c'est surtout qu'il y a énormément de juifs tout de même en Russie. Et donc, on a peur pour eux aujourd'hui et pas tout à fait l'impression que Vladimir Poutine va s'occuper de ce problème.
Non, on pense que... Pardon, excusez-moi. Poutine, on ne sait pas exactement où il est de toute façon. Il y a une délégation du Hamas qui est arrivée hier qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères. C'est absolument pas une priorité. En même temps, je ne pense pas que la Russie puisse se permettre d'avoir des pogroms en Russie aujourd'hui. Donc je pense qu'en Russie, on va quand même mettre à disposition un arsenal suffisamment important pour que ça ne se reproduise pas. Le chef du Daghestan a dit que bien que la population et que le Daghestan soutiennent les Palestiniens, il n'y a rien d'honorable à une foule qui essaye d'attaquer des juifs à l'aéroport.
Alors, évidemment, c'était, on va dire, l'incident le plus violent du week-end, parce que ça rappelait des scènes de lynchage et de pogrom, comme vous l'avez dit, Léa, mais il y avait aussi énormément de manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu partout dans le monde ce week-end. On va peut-être commencer par Paris, puisque c'est le plus près de Bruxelles, une manifestation qui avait d'abord été interdite et puis qui finalement a eu lieu.
Oui. Et puis, je pense qu'il faut laisser avoir lieu les manifestations à travers l'Europe. Ces manifestations sont absolument, j'ai envie de vous dire, incroyables parce que finalement, ce conflit est complètement exportable. C'est le seul conflit quand même au Moyen-Orient qui fait descendre des gens dans la rue à ce point-là et qui mobilise les foules à ce point-là. Et en même temps, on remet en proportion parce que à Londres, on a eu 100 000 personnes dans les rues à peu près. En France, il y a eu 15 000. Maintenant, j'imagine que ça va se développer dans les semaines à venir, plus l'incursion terrestre continue.
Alors, ce n'est pas seulement que c'est des manifestations pro-palestiniennes, parce qu'à la rigueur, ça, évidemment, on pourrait comprendre, dire que c'est de la liberté d'expression, que c'est important de ce côté-là, etc. Mais dans toutes ces manifestations, il y a toujours des slogans antisémites, Léa.
Justement, c'est pour ça qu'il faut laisser ces manifestations avoir lieu. Parce que ça montre bien que ce n'est pas une des manifestations classiques pro-palestiniennes où la foule peut prendre parti. Ce sont bien des manifestations antisémites. Et c'est pour ça que je trouve ça très important, mais vraiment primordial, de laisser ces manifestations avoir lieu. Qu'on voit qui est dans les rues, qu'on voit les slogans. On ne parle pas que de manifestations pro-palestiniennes, évidemment. Dans certaines manifestations, il y a les drapeaux de Daesh. En Europe, on doit prendre conscience que ces manifestations ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes.
Ce sont Mais vous avez l'impression, Léa, que parce qu'on les laisse et qu'il y a des slogans antisémites qui sont justement comme ça donnés dans les capitales européennes, ça change la prise de conscience? Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, au contraire.
Alors, je ne sais pas si ça change la prise de conscience du public, mais je suis persuadée que ça change la prise de conscience du leadership. Il se retrouve quand même avec 100 000 manifestants dans la rue à créer des slogans antisémites. On comprend bien qu'il y a un problème dans les pays européens. Et si on interdit les manifestations, qu'est-ce qu'on fait? On les confine à la maison et on obtient exactement l'inverse. Pour moi, ça doit être éclairé à la lumière, que les journaux relatent les faits comme ils sont, qu'on arrête de parler de manifestations pro-palestiniennes et qu'on commence à parler aussi également de manifestations antisémites en France, et en Angleterre et en Europe. Oui. J'entends les juifs français se demander s'ils ne doivent pas enlever leur mezouza de la porte.
Bah, ce n'est pas qu'ils se demandent, c'est qu'ils les ont enlevés. Et ils enlèvent aussi leurs rails et ils enlèvent leurs enfants. Ils vont les chercher pour ne pas les laisser prendre le métro. Oui, à Paris, en ce moment, c'est compliqué. Et à Bruxelles c'est aussi, compliqué. Également.
Et à Londres aussi.
Et à Londres aussi. Alors, en Turquie, le président Erdogan, les Landman, se faisait le champion de la cause palestinienne et on l'a vu attaquer violemment Israël également.
Alors, oui, et puis encore une fois, ce n'est pas tellement étonnant puisque les deux soutiens principaux du Hamas, quand même au Moyen-Orient, c'est le Qatar et la Turquie. Le Hamas, les frères musulmans, Erdogan, champion des frères musulmans. On ne s'attendait pas à une réaction aussi violente de la part d'Erdogan, mais il a pris sa position dans ce conflit très, très, très clairement. Mais en fait, encore une fois, ce n'est pas étonnant. Le Qatar paye et la Turquie donne toute l'enveloppe, entre grands guillemets, spirituelle du Hamas.
Alors, je ne sais pas si ce n'est pas étonnant, Léa, parce que dernièrement, Recep Tayyip Erdogan avait tout de même usé, on va dire, de beaucoup plus de diplomatie par rapport à Israël. On se rappelle de l'été dernier, sa coopération pour pas qu'il y ait d'attentats contre des Juifs sur son territoire, sur lequel les Iraniens les menaçaient, sur lequel il avait coordonné avec les services de sécurité israéliens. Et ces derniers temps, on va dire que sa politique était tout de même moins agressive que d'ordinaire. Par le passé, je ne dis pas qu'il n'a pas eu des discours quasi nazis, mais ces derniers temps, ce n'était plus le cas.
Alors, la coopération sécuritaire avec la Turquie, c'est surtout l'intérêt de la Turquie quand même. Bien sûr que c'est l'intérêt d'Israël, mais c'est surtout l'intérêt de la Turquie. La Turquie qui va se retrouver avec des attentats contre des Juifs et des Israéliens en Turquie, c'est une catastrophe pour Erdogan. Donc, ce point de vue-là me paraît assez logique. Le changement de position d'Erdogan, on peut le voir dans le contexte du grand conflit. Pendant quelques mois, puisque Israël et la Turquie n'avaient plus de relations diplomatiques pendant très longtemps, ça a repris, mais c'était toujours conditionné. Et là, la division des lignes est très claire quand même. On a l'Iran, on a la Turquie, on a la Russie d'un côté et le reste de l'autre. Donc en fait, ce n'est pas tellement étonnant. La Turquie veut essayer de prendre place dans ce conflit. Son seul moyen de le faire pour l'instant, c'est ça. En même temps, la vraie question, elle est la suivante. La Turquie, pays de l'OTAN, la Turquie qui aurait pu jouer un rôle modérateur, encore une fois, de par son influence sur le Hamas et sur le leadership du Hamas. Il y a quelques jours, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, une annonce disant que Erdogan va expulser les leaders du Hamas qui sont chez lui. Il a tout de suite nié. C'est sorti dans Al Monitor. Il y a seulement un journal qui en a parlé, mais il a été très rapide en disant pas du tout. Le Hamas c'est la résistance. On expulse personne.
Ah oui, là, pour le coup, il est très clair. Les slogans d'hier, c'était Israël assassin. Il a réaffirmé que le Hamas n'était pas terroriste. Il a accusé les Israéliens de crimes de guerre et ajouté même que l'Occident était responsable des massacres à Gaza. Donc, on peut difficilement faire plus clair.
Non, on est très clair. Et surtout, lui a pris une position très claire de quel côté il est dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il ne reste même pas neutre, en fait, dans cette histoire. Ce qui est intéressant, parce que on entend même l'Arabie Saoudite, on entend Al-Arabiya, ils sont beaucoup plus modérés dans leur propos, si on peut parler de modération, que Al-Jazeera. Okay, on voit très bien que dans ce conflit, au Moyen-Orient et dans la presse arabe, on entend vraiment des voix très distinctes en fonction de dans quel camp on se trouve. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la Turquie a choisi son camp. Ce qui ne me paraît pas, qui me paraît pas tellement rationnel, en fait. Je ne comprends pas très bien où Erdogan veut en venir, puisqu'il perd son levier qu'il a en étant, je ne vous dis pas neutre, d'accord ? Aucun des pays arabes n'est neutre dans cette histoire. Ils ont été très clairs sur ce qu'ils pensent, sauf que d'autres pays arabes se retrouvent en fait dans une situation, par exemple, où dans le grand conflit, on se retrouve avec l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Et je vous avoue que je ne comprends pas très bien la position de la Turquie. Je ne vois pas quel levier il peut obtenir. Et je ne vois pas surtout comment la Turquie peut être importante en, se, en réaffirmant son soutien au Hamas.
Est-ce que ce n'était pas tout simplement à cause de son opinion interne, peut-être, Léa? Au lieu justement de vouloir jouer les médiateurs comme le fait le Qatar, il a voulu peut-être satisfaire plutôt son opinion turque, en fait, indépendamment de la diplomatie de son pays ces derniers temps.
Je ne sais pas, parce que la Turquie a un rapport, en tout cas les Turcs ont un rapport plutôt tempéré envers les Israéliens. Pendant tout le temps où la Turquie et Israël, au niveau diplomatique, n'avaient plus de relations, le commerce continuait. Les délégations turques arrivaient en Israël. C'est-à-dire, encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est pour parler à son public. Pour moi, c'est plutôt une question de je montre dans quel camp je suis.
Oui, et c'est vrai aussi qu'il reprend une posture qu'il a déjà prise par le passé. C'est pas seulement contre Israël, c'est pour pourfendre l'Occident et défendre l'islam sur la scène internationale.
Exactement.
Je crois que c'est surtout ça aussi que Erdogan a voulu
faire. L'islam, mais un islam particulier, hein, puisqu'on parle d'un islam des frères musulmans. Encore une fois, c'est important de faire la distinction, parce que pour l'Arabie saoudite, c'est eux qui défendent l'islam aussi.
Oui.
Et sans parler de l'Iran qui pense défendre l'islam, tout le monde défend l'islam. Mais dans le cas particulier de la Turquie qui a une position si spéciale quand même, c'est un peu particulier. Le Qatar aussi a une position compliquée, hein, mais au moins elle est claire. En même temps, il y a une des plus grandes bases militaires américaines au Moyen-Orient, elle se trouve au Qatar. CENTCOM, le centre de commande et contrôle des Américains au Moyen-Orient, se trouve au Qatar.
Oui, une politique tout à fait différente entre la Turquie et le Qatar. On en rediscutera sans doute. Merci beaucoup, Léa Landman, spécialiste de géopolitique et de diplomatie, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous et à très vite.
Bonne journée, Lisa, très vite.